Europe 1.
La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin. Et c'est l'heure de la solution du jour avec Elisabeth Assayag. Solution qui concerne tous ceux qui veulent faire du bénévolat, Raphaël.
Oui, vous voulez donner du temps, vous ne savez pas vers quelle association vous tournez. On a une solution, Elisabeth, ça s'appelle tousbénévoles.org.
Oui, tiens, par exemple, vous habitez Rennes, vous êtes disponible seulement les mardis, les jeudis soirs, et vous souhaitez aider des réfugiés. Comment trouver la mission qui correspond à tous ces critères? Tousbénévoles.org vous aide. C'est une plateforme qui vous aide à trouver cette mission qui vous correspond grâce à un moteur de recherche très perfectionné. Vous rentrez les critères, le type de mission, vos disponibilités. Bonjour Isabelle Persoz.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de tousbénévoles.org. Comment est née l'aventure?
Alors, elle est née il y a déjà un petit moment,
oui.
Dans les années 2000, où c'était les débuts de l'Internet, et où, je ne vous cache pas que les gens n'étaient pas tellement sur Internet, mais... Comme c'était un peu mon métier, je me suis dit ça peut quand même avoir un impact important sur la solidarité.
De les mettre tous en relation les uns avec les autres. Donc vous avez créé tousbénévoles.org. Comment ça marche très concrètement?
Eh bien, c'est très simple en fait. C'est un peu ce que vous disiez. En fait, vous avez envie d'aider près de chez vous. Vous rentrez votre ville, votre code postal. Et puis vous allez avoir un certain nombre de missions qui s'affichent. Alors... Ensuite, vous avez peut-être envie d'avoir, de vous investir plutôt auprès d'enfants ou auprès de personnes âgées. Ou alors, vous avez juste un tout petit peu de temps, ou alors vous avez beaucoup de temps. Bref,
même si on n'a qu'une heure par mois, on peut ?
Ah ben, évidemment. Même si vous n'avez qu'une heure dans l'année, à la limite. Il y a des missions très ponctuelles. Il y a des missions qu'on appelle permanentes, qui sont une heure par semaine ou une heure par mois. Et puis, il y a des missions un peu plus importantes où peut-être pendant deux semaines, vous allez aider une association à faire son site web si vous êtes dans le métier.
Vous avez des antennes partout en France?
Alors, nous, on n'a pas d'antenne
partout en France.
Non, mais
les associations avec lesquelles qui sont référencées.
Les associations sont partout en France. On a un peu plus de 2000 associations. Et de la même façon, les bénévoles, qui sont nombreux, viennent de toute la France.
Le coach, Thomas Huriez.
En fait, on est dans une société où tout devient marchand. Et du coup, je trouve que votre initiative, elle pose le sujet de l'engagement. Si on se projette dans un monde où tout serait, tous nos investissements seraient fonction finalement du retour financier que l'on aurait, alors qu'est-ce que ce serait la France sans les pompiers volontaires, sans les associations dans nos villes, sans même le surinvestissement de certains salariés dans les entreprises pour les faire grandir. Et donc je trouve que c'est très important de dire qu'une société marchande, c'est pas viable à 100%, que la générosité sans naïveté, c'est hyper important, que ça donne du sens à chacun et que ça rend heureux. Et voilà, faire le contre-pied un peu de cette société où tout est marchand et finalement, c'est pas raisonnable.
Oui, c'est bien vrai. Isabelle Persoz, que recherchent le plus les associations? On recherche quoi le plus en ce moment?
En ce moment, c'est la rentrée scolaire. Mmh. Donc, il va y avoir besoin de beaucoup de bénévoles en accompagnement scolaire. Puisqu'il y a beaucoup de familles qui sont un petit peu en difficulté pour aider leurs enfants. Dans les apprentissages.
Et on peut se manifester à n'importe quel moment auprès d'elles.
Auprès des associations, oui, bien sûr. En mettant type accompagnement scolaire, par exemple. Bon, évidemment, vous savez qu'il y a beaucoup de migrants qui arrivent en France aussi. Et il y a aussi beaucoup de bénévoles qui sont prêts à les aider. Il y a beaucoup de demandes en alphabétisation. Ce qui est intéressant parce que là, vous comme moi, vous ne savez pas le faire, mais les associations vont vous former à apprendre le français langue étrangère. Donc, c'est une compétence de plus en plus pour vous. Et puis, bon, il y a toujours besoin de personnes pour... les maraudes, les distributions alimentaires, mais aussi de plus en plus de bénévolat, de compétences.
Donc 2000 associations et vous êtes la porte d'entrée. Si nous ne trouvons pas, si nous ne savons pas où aller, on peut faire appel à vous et vous allez nous aider. Merci beaucoup d'être venu nous parler de tousbénévoles.org. C'était la solution aujourd'hui sur Europe 1.
Il est midi 58.
Europe 1.
Restez avec nous, on va parler syndic de copropriété, 3921 Twitter, on vous attend.
Europe 1, midi 14h, la France bouge. Oui, Raphaël Duchemin.
La France bouge, c'est jusqu'à 14h. Dans notre dossier du jour, on parle des syndicats de copropriété. Raphaël, pas facile de gérer un immeuble et les demandes de ses habitants. Pour nous en parler, il y a le 39-21, 50 centimes la minute. Vous pouvez également nous écrire, nous envoyer vos messages sur Twitter, @Europe1.
Qui n'a jamais eu de problème avec son syndic? C'est un des sujets brûlants hein, quand on est locataire ou propriétaire. Réunion interminable, appel qui reste sans réponse. Bref, il y a souvent des motifs d'énervement. Alors, on a eu envie d'aller voir ce qui était en train de changer grâce à des start-up françaises qui font bouger le secteur. C'est votre cas. Raphaël Di Meglio, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur d'Illicopro. Face à vous, il y a Elisabeth Assayag.
Bonjour.
Et notre coach Thomas Huriez, fondateur des Jeans 1083. Ils vont vous écouter avec beaucoup d'attention. Alors, on va essayer de résumer. Illicopro, c'est une plateforme qui permet aux copropriétaires d'un ensemble immobilier de gérer eux-mêmes leur copropriété. Ça veut dire qu'on oublie le syndic professionnel.
Exactement, ouais. Chez Illicopro, donc on va permettre aux copropriétaires de se constituer en syndicat coopératif et vont pouvoir gérer directement l'immeuble via la plateforme et via nos conseils. Donc on a des juristes et des comptables en interne.
On fait de la co-gestion. J'imagine que cette idée, elle n'est pas venue comme ça, hein. Ça vient d'une expérience personnelle peut-être?
Oui, absolument. En fait, j'ai eu la chance d'acheter un appartement à Saint-Ouen. Et j'ai commencé à recevoir des appels de fonds du syndic. Et c'est assez complexe à lire comme document. Moi, j'ai fait du droit à la Sorbonne. J'ai fait le ECP. J'arrivais même pas à lire les documents. C'était assez cher. Ils étaient injoignables. Et du coup, on a interrogé beaucoup de copropriétaires, d'associations de copropriétaires comme l'ARC, de syndics traditionnels. Et on s'est vite orienté vers cette solution. Ouais.
Alors, justement, quand vous avez acheté votre appartement, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses qui posaient problème. Or, il y a aussi des choses dans la loi qu'on ne connaît pas.
Ouais,
et
absolument.
Qui existent en
ouais.
matière de syndic, justement.
Oui, en fait, si vous voulez, dans la loi depuis 65, on peut gérer soi-même son immeuble via le conseil syndical.
Et c'est syndic un modèle... coopératif bénévole, hein, c'est ça?
Exactement, ouais, syndicat coopératif. Et en fait, si vous voulez, c'est un modèle qui croît beaucoup. Donc aujourd'hui, on estime à 15-20% des copropriétés qui sont gérées comme ça. Et c'est un modèle qui a vocation à, pour nous, devenir la norme.
Dites-moi, c'est une chose de se rendre compte que ça fonctionne mal, c'en est quand même une autre de sauter le pas. Comment est-ce que vous y êtes pris pour imaginer justement ce système où tout le monde est un peu syndic? Qu'est-ce que vous avez ajouté finalement à la loi de 65?
Oui, en fait, le meilleur moyen, je pense, c'est d'aller interroger les gens, de discuter avec eux, donc discuter avec les copropriétaires, les professionnels, les associations. Et tous nous disaient que ce modèle-là était extrêmement vertueux parce qu'on fait des économies de charges, on résout les problèmes beaucoup plus efficacement, mais que ça pouvait prendre un peu de temps et que c'était un peu complexe. Et en fait, c'est exactement là où nous, on intervient. C'est qu'avec un peu de technologie, etc., on peut rendre ça facile et accessible à tout le monde sans avoir de connaissances juridiques ou comptables.
Elisabeth, il faut dire que des syndics, il y en a énormément.
La France compte 9,7 millions de logements en copropriété, ce qui représente environ 28% du parc total. Parmi ces 9,7 millions de logements, 15% de ces immeubles, des immeubles connaissent des difficultés plus ou moins importantes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement a décidé très récemment de se concentrer sur 684 précisément d'entre eux dans le cadre de son plan Initiative Copropriété, dont 128 sont considérés comme dégradés. Un copropriétaire reste en moyenne de 7 à 8 ans dans sa copropriété.
Raphaël, l'idée, elle vous vient en 2017, je crois.
Oui.
Vous débutez vraiment en 2019. Vous avez aujourd'hui déjà des copropriétés qui vous suivent?
Ah oui, on a, d'ici la fin de l'année, on aura plus de 1000 copropriétés qui seront clientes. Et ce qui est génial dans ce modèle-là, c'est qu'on met en relation toutes les copropriétés clientes, et notamment via un annuaire fournisseur. Donc elles se partagent les bonnes pratiques, elles se partagent les bons prestataires, donc les bons plombiers, les bons électriciens. Et donc plus la communauté grandit, plus le service devient de qualité.
Je suis impressionnée par votre développement, parce que vous êtes 25 aujourd'hui et vous dites, bon, en principe, à la fin de l'année prochaine, fin 2020, on aura 90 salariés.
Oui, absolument. Ben en fait, si vous voulez, c'est un secteur où il y a énormément de problèmes et où notre modèle fonctionne extrêmement bien. On ne perd jamais de clients et on arrive à en acquérir beaucoup parce que les gens sont souvent à la recherche d'alternatives. Et du coup, ça nous permet de croître assez vite et de capitaliser là-dessus.
Ouais. Ouais, et puis vous dites, en fait, tout le monde a intérêt à ce que ça fonctionne bien parce que ceux qui gèrent, ce sont ceux qui payent aussi. Et ça change tout.
Exactement, c'est aligner les intérêts des copropriétaires sur celui des syndics. Et là, c'est un modèle qui devient extrêmement vertueux rapidement.
Que dit notre coach, Thomas ?
Dans la question des syndics, il y a les enjeux de maintenance, d'entretien, et puis il y a parfois des choses réglementaires, techniques. Comment on permet à Monsieur Tout-le-Monde de s'y connaître en droit, dans les normes d'entretien des ascenseurs, etc. Est-ce que vous avez des experts, finalement, qui viennent aider, épauler les copropriétaires pour gérer leur copropriété?
Ouais, absolument. En fait, si vous voulez, dans la boîte, il y a des développeurs pour la partie développement de la plateforme, et après, on a des juristes, des comptables et des gens du bâtiment. Et en fait, via la plateforme, déjà, on prend en charge un certain nombre de choses sur la comptabilité, les appels de fonds, les clôtures d'exercice, et après, on fait aussi du support. C'est-à-dire que dès que les copropriétaires ont des questions, ils peuvent nous appeler au téléphone et on leur répond directement. Et donc l'idée, c'est vraiment de les cadrer juridiquement et comptablement.
Aujourd'hui, vous êtes en région parisienne, vous comptez vous développer, c'est prévu dans effectivement votre plan d'ici 2020 ?
En fait, on a 70% je pense de nos copropriétés qui sont en Île-de-France, oui. Et 30% qui sont dans le reste de la France.
À quels endroits ?
C'est beaucoup dans les régions, dans les grandes villes, donc il y en a pas mal à Lyon, pas mal à Marseille. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on arrive à signer des grosses copropriétés, donc de 100 appartements à Nantes, de 60 à Lyon, et ça c'est vraiment génial.
L'année prochaine, vous dites, on aura une appli mobile. Pour l'instant, c'est pas opérationnel.
Pour l'instant, ouais, c'est qu'une appli web.
Internet.
Ouais, exactement. C'est comme quand on se connecte à son adresse mail. Là, on va se connecter sur Helicopro et chacun des copropriétaires peut se connecter directement.
Thomas Hurez.
Il y a pas toujours une grande participation des copropriétaires aux assemblées générales de copropriété. Est-ce que le fait de s'engager soi-même, de gérer soi-même, augmente la participation des copropriétaires dans leur syndic?
Ouais, en fait, ça se limite même pas à juste l'assemblée générale. C'est que quand les gens voient où va l'argent, quand les gens peuvent s'investir, quand les gens peuvent résoudre les problèmes directement, et ben ils ont tendance à plus s'investir directement dans la copropriété. Et nous, on voit une beaucoup plus grande participation dans les conseils syndicaux, dans la vie de l'immeuble. Des copropriétaires. Par exemple, ils ont un espace pour communiquer sur la plateforme directement, et bah, tout le monde peut signaler un problème, résoudre le problème, etc.
Elisabeth, les syndics bénévoles, il y en a de plus en plus pour les petites copropriétés notamment ?
Oui, parce que c'est une bonne option hein, pour les petites copropriétés. La moitié des syndics bénévoles gèrent des copropriétés de moins de 10 lots. Au-delà de la taille de l'immeuble, il faut surtout, et c'est essentiel et c'est en ce sens que votre solution est bonne, c'est que les copropriétaires doivent s'entendre bien pour que la copropriété roule normalement, qu'il n'y ait pas d'impayés, pas d'énormes travaux à gérer. Il y a d'ailleurs certains organismes, comme l'ARC, l'association des responsables de copropriété, qui proposent un accompagnement complet dédié à ces syndics bénévoles, ce qui permet tout de même d'avoir un petit filet de sécurité.
L'économie, dites-moi, elle est réelle par rapport justement à un syndic classique?
Oui, en fait, il y a deux types d'économies qu'on fait en passant chez Helicopro. C'est d'une part les honoraires de syndic. En fait, on va directement diminuer les honoraires de syndic et on va les remplacer par un abonnement à la plateforme Helicopro. Et la deuxième chose, c'est que quand les copropriétaires voient ce qu'il y a effectivement dans les comptes, voient effectivement les contrats et qu'ils peuvent les renégocier directement, alors là, ils font des économies énormes. Par exemple, sur l'assurance de la copropriété, sur le contrat de ménage, en fait, ils font venir les prestataires, leur disent ouais, voilà, on va vous mettre en concurrence, maintenant on sait où est-ce que part l'argent, etc. On voit les contrats de la copropriété et là, on fait encore plus d'économies. Et donc, dans nos immeubles...
De quel ordre, par exemple?
Donc dans nos immeubles, c'est de l'ordre de 20 à 50% d'économie sur le budget courant de la copropriété.
Et c'est en fonction justement, ça, je suppose que ça marche par abonnement pour la copropriété, c'est en fonction de la taille de l'immeuble ?
Exactement, ouais. On a un prix donc, de 8 euros par appartement par mois, et donc plus l'immeuble est gros, plus le travail pour nous va être important, et donc le tarif est élevé.
On reste ensemble, on continue à parler copropriété et syndic aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h17. Europe 1. Choisir un syndic, c'est s'engager. Alors, avant de sauter le pas, pourquoi ne pas les comparer? C'est ce que fait Duflair.com. À tout de suite. On parle des syndicats de copropriété dans la France Bouge avec vos invités. Raphaël Duchemin, vous gérez vous-même votre immeuble, au contraire, vous passez par un syndicat professionnel. Comment l'avez-vous choisi? En êtes-vous satisfait? Dites-le nous sur Twitter, @Europe1. Appelez-nous également au 39 21, 50 centimes la minute.
Ah oui, quand on signe un contrat avec un syndic, c'est pour plusieurs années. Alors, pour être sûr de son choix, pourquoi ne pas comparer? C'est ce que vous proposez, Guillaume Andrieux, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Duflair.com. Alors, Duflair, c'est un comparateur en ligne.
Vous êtes basé à Lyon, hein, c'est bien
basé
ça.
Basé à Lyon, absolument.
Racontez-nous, comment vous est venue cette idée? Vous aussi, je présume, expérience un peu difficile?
Pas expérience difficile, j'étais gestionnaire de copropriété, bon. Moi, à la base, à l'époque.
Et c'est, donc, en fait, expérience c'est en... des autres, pour le
expérience
coup.
Expérience des autres, absolument. Et c'est en déjeunant avec, avec un ami qui était très mécontent de son syndic et qui me l'a fait savoir pendant ce repas, et qui voulait absolument que je reprenne la gestion de son immeuble, que l'idée est un peu née, parce que je ne voulais pas reprendre la gestion de son immeuble, je ne voulais pas m'élier perso et professionnel. Et je lui ai dit, mais va voir autour de chez toi, tu trouveras forcément quelqu'un de compétent. Prends le temps d'analyser, de recevoir les professionnels, de ressentir un peu le feeling avec eux, tu trouveras. Et pour moi, ça paraissait très simple parce que j'étais du métier, mais pour lui, ça paraissait beaucoup plus compliqué. Il n'avait pas le temps de s'en occuper, il ne connaissait rien au marché, ni au prix, ni aux qualités de service de chacun. Et c'est là que l'idée est venue de monter une plateforme de comparaison.
Parce qu'on a souvent tendance à changer de syndic, c'est quelque chose qui est très courant.
Oui, les copropriétaires sont de plus en plus volatiles. Et maintenant, avec l'information qu'il y a sur Internet, etc., ils sont de plus en plus amenés à en changer. Et donc, voilà, l'idée, c'est de proposer un outil qui peut leur apporter une vision du marché un peu globale.
Alors, ce que vous nous racontez, c'est quand même assez récent. Je crois que c'est mai 2018 que tout démarre vraiment. Comment est-ce que vous avez fait pour référencer? Quels sont les critères que vous utilisez pour comparer justement les syndics?
Oui, alors en fait, création en mai 2018, lancement de la plateforme en septembre. De mai à 2018 à septembre, on allait chercher nos premiers clients. Et comment on les référence? En fait, c'est très simple, on n'a pas forcément de critères particuliers pour les référencer. Chacun peut venir, chaque syndic peut être référencé sur la copropriété. Le seul petit point que l'on met, petite barrière à l'entrée que l'on va mettre, c'est qu'on exige en fait de réaliser une enquête de satisfaction auprès de leurs clients copropriétaires.
Parce qu'aujourd'hui, finalement, quand on cherche un syndic, ça se fait plutôt par bouche à oreille que par référencement.
Oui, c'est beaucoup de bouche à oreille. C'est même quasiment le seul canal d'acquisition que les syndics classiques ont. Mais c'est ni plus ni moins cette plateforme.
Et ce qui va me plaire à moi ne va pas forcément vous plaire à vous.
Absolument.
En tout cas, les recherches ne vont pas forcément être les mêmes.
Exactement. C'est pour ça que lorsqu'un copropriétaire vient s'inscrire sur la plateforme, on lui demande ses besoins envers son syndic.
Alors, par exemple?
Par exemple, on va lui demander si son premier besoin, c'est la disponibilité, la réactivité de son syndic, ou si c'est plutôt la bonne gestion des charges, la comptabilité, etc. Il y a d'autres critères. Vous me direz, tous ces critères sont importants, mais nous, on va lui demander de les hiérarchiser. Et c'est en hiérarchisant ces critères-là que nous, on va les faire matcher avec les évaluations clients que l'on a. Et c'est ainsi qu'on va lui proposer le syndic le plus adapté à sa copropriété et au meilleur prix.
Alors, c'est pas vous directement, c'est un algorithme évidemment qui fait matcher, hein, comme vous dites, enfin qui fait se rencontrer justement les besoins et le syndic.
Exactement.
Combien de critères d'évaluation?
Il y a 6 critères d'évaluation. C'est volontairement assez simple pour que l'évaluation par le client, enfin par le copropriétaire, soit très rapide et que ça ne l'ennuie pas, quoi.
Elisabeth, je crois qu'il existe aussi un label, hein, pour les syndics spécialisés.
Spécialisés, oui. Vous avez le label, la certification Quali-SR qui distingue les syndicats compétents, les syndics compétents dans la gestion des copropriétés fragiles ou en difficulté. Parce qu'une copropriété sur 10 en France est en situation de fragilité ou en difficulté.
Justement, Guillaume Andrieux, comment est-ce que vous faites quand un syndic est en difficulté? Est-ce que vous avez le moyen, vous, de prévenir, d'essayer de différencier? Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte?
Oui, alors il y a effectivement ce label qui est mis en place de Quali-SR et il y a certains syndics qui sont labellisés et on les met en avant effectivement sur les copropriétés qui sont en difficulté et qui passent par notre service pour trouver... professionnel adapté.
Que dit notre coach, Thomas Hurriez?
Oui, c'est un peu le Tinder des
copropriétés. Exactement.
Être syndic, c'est un business. C'est un bon business. Je me demandais si votre initiative, elle montrait plus que ce business est un peu trop profitable et que certains syndics en profitent trop et donc c'était surtout un moyen pour les copropriétaires de limiter les frais. Ou alors, est-ce que c'est plus un service que vous rendrez aux copropriétaires en leur simplifiant l'action de changer de syndic qui paraît être une montagne quand on doit choisir ça en plus à plusieurs?
Ouais. Bah, on simplifie en fait la mise en concurrence, bien sûr, puisqu'on va leur donner la possibilité assez rapidement d'avoir plusieurs offres comparables. Mais aussi, on est un service aussi. Le service qu'on apporte est aussi bénéfique pour les syndics, sans dire qu'ils sont trop rentables, parce que c'est faux, c'est pas une activité non plus hyper rentable. L'idée, c'est aussi d'améliorer l'image qui est renvoyée de ce métier, qui aujourd'hui a une une très mauvaise image, hein. Plus de 51% des copropriétaires se disent insatisfaits de leur syndic. Et pourtant, en fait, il existe des professionnels hyper compétents et l'idée, en fait, de cette plateforme est aussi de les mettre en avant.
Alors justement, comment est-ce qu'ils ont réagi à votre arrivée sur le marché, ce comparateur ? Est-ce qu'ils ont redouté des choses ? Est-ce qu'au contraire, ils se sont dit c'est peut-être l'occasion de,
d'avoir une autre image ? Oui, il y a les deux écoles. Et alors, il y a ceux qui ont vu ça comme effectivement quelque chose d'inévitable. Où aujourd'hui, je veux acheter un aspirateur, je vais aller le comparer sur Internet, tant sur les prix que sur les avis clients. Ils se sont dit, mon métier va aussi y passer. Et s'il y a un train à prendre, c'est peut-être celui-ci. Après, il y a aussi les autres qui disent que ça fonctionnait pas comme ça il y a 100 ans et que ça fonctionnera pas comme ça dans 100 ans. Donc nous, on n'oblige personne à être référencé, bien sûr, c'est pas l'idée. Hein. S'ils y voient pas un intérêt dedans, il y a pour nous aucun problème.
Vous êtes sur Lyon, on l'a dit, mais vous travaillez aussi sur le reste de la France.
Oui, on est surtout sur Lyon et sur Paris, puisque c'est là où il y a le plus gros nombre de demandes. Mais notre modèle de développement en fait se base sur les demandes de copropriétaires qui viennent s'inscrire sur la plateforme. Donc on est aussi en train de s'implanter sur Bordeaux, sur Nantes, sur Marseille, sur Nice. Dans ces villes-là qu'on est en train de démarcher en fait des syndics professionnels et de réaliser les enquêtes de satisfaction auprès de leurs clients.
Vous êtes 4 salariés aujourd'hui, c'est
oui,
ça ? C'est quelque chose qui est appelé à se développer, je suppose ?
Oui, qui a amené à se développer. Il y a d'autres. On est en train de travailler avec des promoteurs pour être intermédiaires aussi lorsqu'ils ont une construction neuve et qu'ils élisent en fait un syndic provisoire. Ça pose souvent des soucis éthiques. On dit souvent qu'il y a copinage entre le promoteur et le syndic. Ça peut poser quelques problèmes. Et du coup, nous, on va se mettre en tant qu'intermédiaire en fait entre ces deux-là et on va laisser la possibilité au premier copropriétaire en fait de l'immeuble de sélectionner des syndics sur notre plateforme.
Vous allez aussi développer une appli, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui est aussi dans l'air du temps.
Ouais, après une appli ça coûte très cher, hein, on va pas se le cacher. Est-ce qu'il y a un réel intérêt pour nous encore, même pour Raphaël, d'avoir une application? Je sais pas, aujourd'hui si vous avez un site internet qui est suffisamment responsive, et en fait c'est peut-être suffisant.
Donc, oui, qui répond assez vite, hein, c'est ça.
Oui, un responsive, ça veut dire qu'il va être adapté en fait au mobile ou à la tablette et à l'ordinateur pour que vous puissiez naviguer dessus assez simplement.
La concurrence, elle existe?
Oui, il y a de la concurrence.
Qu'est-ce qui vous différencie justement des autres comparateurs?
Il y a d'autres comparateurs, déjà ils ne sont pas non plus très nombreux et ils se basent uniquement sur l'aspect tarifaire du syndic de copropriété. Et en fait, sur chaque ville, vous allez souvent avoir le même qui va ressortir en premier, ça va être le moins cher. Donc pour eux, ils ont forcément un problème pour faire rentrer de plus en plus de syndics, là où nous, on se base sur cet aspect qualitatif qui fait qu'on arrive à en faire rentrer un peu plus. À côté de ça, il y a aussi des courtiers physiques qui existent surtout sur Paris. Nous, on se base pas en tant que courtier.
Et ça, c'est de la concurrence
en
pour
fait,
vous
c'est, un peu, c'est de la concurrence indirecte parce que nous, on se base pas en tant que courtier. Donc c'est quelque chose d'à part parce que courtier, le copropriétaire va demander un accompagnement un peu plus que nous. Là où nous, vraiment, on va lui donner une vision des contrats instantanément, un comparatif des trois offres qu'il aurait sélectionnées. Mais derrière, on va pas aller l'accompagner sur la copropriété, visiter l'immeuble. Voilà.
On reste ensemble ? On continue à parler des syndics de copropriété aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h28.
Europe 1.
Et pourquoi ne pas essayer de pacifier aussi les relations entre syndics et copropriétaires ? C'est l'ambition en tout cas affichée de Chouette Copro. A tout de suite. Et on retrouve Raphaël Duchemin, la suite de votre émission avec les solutions copropriété syndic, on en parle sur Europe 1.
Et on vous attend, hein, toujours au 3921, évidemment Céline.
Oui, envoyez-nous vos messages, 3921 c'est le téléphone, 50 centimes la minute. Vous pouvez également nous écrire via Twitter avec le @ ou hashtag Europe 1.
Et vous serez en direct dans un peu moins de 10 minutes maintenant avec nous sur Europe 1. C'est vrai que dans le quotidien d'un immeuble, il y a tout un tas de problèmes à régler. J'en sais quelque chose. Hein. Nous, en ce moment, on est en train d'attendre la réparation de l'ascenseur. J'habite au 4e, ça ne me fait pas de mal, vous me direz. On n'a pas de date. Bref, ce sont des petites choses qui polluent les relations entre les habitants d'une copropriété et leur syndic, forcément. Bonjour Philippe Joubert.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous avez fondé Chouette Copro. Votre idée, c'est justement de mettre de l'huile dans les rouages, on peut le dire comme ça.
Alors, c'est un super lancement que vous avez fait. Merci pour ça, parce que moi, j'ai créé Chouette Copro en 2016 exactement sur ce problème-là. Moi, j'ai été combien de fois irrité, frustré, parce que concrètement, la lampe du palier, j'habite au 2e, était cassée, l'ascenseur en panne, le chauffage en plein hiver. Je vous raconte même pas. Et concrètement, on ne sait pas si le voisin a à signaler le problème. On ne sait pas si le syndic a pris l'action et on ne sait pas où en est la résolution. Résultat, on est totalement désengagé de la vie de la copropriété et on ne se déplace même plus en AG.
Oui, effectivement, moi, il y a un petit panneau sur la porte de mon ascenseur au rez-de-chaussée avec marqué « Et c'est pour quand la réparation ? Est-ce qu'on a un délai ? Il y a un point d'interrogation, il n'y a toujours pas de réponse en dessous, vous avez raison. Racontez-moi, donc, le projet, il naît à quel moment dans votre esprit et à partir de quand vous décidez de faire quelque chose ?
Alors, le projet, en fait, on l'a imaginé en 2015. Moi, je suis conseil syndical, hein, c'est en tant que conseil syndical que j'ai pensé à Chouette Copro. Et conseil syndical, il a quelque part un peu les mêmes difficultés que le syndic. Hein. C'est un rôle assez prenant, assez chronophage, assez ingrat parce qu'on reçoit aussi les plaintes de souvent tous les occupants. Hein.
Ah bah vous êtes en direct, ils peuvent venir taper à la porte de la maison.
En plus, absolument. Et puis en plus, il faut évidemment relancer continuellement. Hein. Donc derrière nous, on s'est intéressé évidemment aux mots du syndic et on s'est rendu compte que c'est une profession qui a besoin évidemment de se réinventer, de se moderniser et de se digitaliser. Et donc Chouette Copro, c'est en fait une plateforme de communication qui va permettre de simplifier l'entretien des parties communes et qui concrètement met en relation l'ensemble des parties prenantes de la copropriété, donc les occupants, le conseil syndical gardien s'il y a un gardien, le syndic et les prestataires techniques.
Donc l'idée c'est vraiment pas de remplacer le syndic mais d'essayer de valoriser son travail.
C'est exactement ça. Simplifier et valoriser son travail en digitalisant et en apportant finalement une solution qui va répondre aussi à la question quand est-ce que mon ascenseur, en l'occurrence votre ascenseur...
Bah écoutez, si vous avez la réponse, j'achète tout de suite. Comment est-ce que vous vous y prenez ? Parce que bon, c'est évidemment la base des relations humaines hein, sur laquelle il faut travailler, j'imagine.
Oui, absolument. Très concrètement, donc la plateforme Chouette Copro, c'est une appli pour les occupants. Alors, c'est pas une appli mobile comme les deux autres startups. On va travailler l'année prochaine une appli mobile. Et concrètement, on s'est rendu compte que deux occupants sur trois qui utilisent la plateforme aujourd'hui le font à partir d'un PC. Hein. Alors, c'est possible à partir d'un mobile, évidemment aussi. Et donc, le fonctionnement est extrêmement simple. Concrètement, c'est une plateforme de signalement, donc je vais voir un dérangement dans les parties communes. Je peux prendre une photo avec mon smartphone, j'appuie sur valider et ça envoie un message vers l'ensemble des occupants. Et donc c'est le premier bénéfice, c'est que tout le monde voit que je me suis donné la peine de signaler le problème. Hein. Donc ça crée un engagement. Et donc concrètement, premier bénéfice pour le syndic et le conseil syndical, c'est qu'ils vont recevoir moins de messages, pardon, de la même nature. Et donc moins d'emails, moins de coups de téléphone, etc.
Parce que tous les autres copropriétaires seront avertis par la photo ou le message que le syndic a bien été alerté.
Absolument. Et donc derrière, le syndic va pouvoir envoyer ce qu'on appelle un bon d'intervention, un ordre de service à l'ascensoriste, qui lui, sur la plateforme, va être aussi engagé, va pouvoir dire quand est-ce qu'il passe et rendre compte de son intervention auprès de tout le monde. Donc c'est vraiment une plateforme qui a vocation à valoriser l'intervention des professionnels de l'immobilier.
Aujourd'hui, vous êtes une équipe de combien ?
On est 8 aujourd'hui.
8 personnes et la plupart sont à Paris, à Caen, côté technique, c'est ça ?
Oui, absolument. Moi, je suis normand d'origine et en effet, notre associé technique, Marc, est basé à Caen. Et donc toute notre équipe technique est basée à Caen. Hein. Et en effet, l'équipe business est à Paris.
Que dit notre coach, Thomas ?
Donc j'ai bien compris le système, très intéressant. Les relations entre le syndic, enfin avec le syndic, se fait surtout par le biais des copropriétaires, mais dans les immeubles, il y a aussi des locataires et ils peuvent être victimes aussi des ascenseurs et de la lumière qui ne marche pas. Est-ce que du coup, eux aussi ont accès à ces services, non pas en tant que copropriétaires, mais en tant que locataires ?
Oui, très bonne question. Oui, absolument. Et ça, c'est vraiment ce qui va nous différencier de tout un tas de confrères, d'ailleurs, hein, on le voit. C'est que les locataires sur Chouette Copro sont bienvenus, précisément parce que la copro, c'est super chouette. Il n'y a aucune raison d'écarter les locataires, ils ont exactement la même valeur d'usage. Hein. Et donc concrètement, c'est des gens qui vont aussi prendre soin de leur bien commun ou du bien commun de leur copropriétaire. Et si j'habite au 8e étage et que l'ascenseur est en panne et que je n'ai pas mes packs d'eau, très concrètement, que je sois locataire ou copropriétaire, j'ai intérêt à le signaler le plus rapidement possible. Et plus vite c'est signalé, plus vite ce sera réparé.
Quels sont les problèmes justement que vous rencontrez le plus souvent ou qu'on vous demande de résoudre le plus souvent?
Oui, alors c'est de toute nature. Hein. Évidemment, vous avez l'ascenseur, vous allez avoir aussi tout un tas de pannes de chauffage. Chauffage collectif, je peux vous dire qu'en plein hiver, ça fait mal. Hein. Mm-hmm. Vous allez avoir des problèmes d'accès. On a typiquement le groom, la porte de parking, etc. On peut avoir aussi tous les problèmes de fibre optique. Chaque opérateur et chaque client se mettent évidemment à la fibre de plus en plus. Et la première question de l'opérateur, c'est où est le tableau de raccordement ? Vous allez avoir des problèmes de sécurité aussi qui peuvent être remontés, et donc le recours à la vidéosurveillance. Et nous, on s'est rendu compte à quel point ce type de plateforme aussi va être très pertinent pour rassurer les occupants. Il y a eu une agression, etc. Ça peut être aussi une coupure d'eau, ça peut être panne de chauffage, j'en parlais. Et donc, évidemment, tous les occupants de l'immeuble ont vraiment besoin d'être rassurés.
Elisabeth, on n'a pas parlé argent, mais quand même, les charges des copropriétés sont de plus en plus élevées. Oui, vous avez les chiffres ?
Y en a eu là récemment, parce qu'être copropriétaire, mais effectivement, ça coûte de plus en plus cher. Elles ont progressé ces charges de 3,1% en 2018. Ce sont des chiffres de l'Observatoire de Meilleurs Copro, qui a donc passé au crible un échantillon de plus de 200 000 copropriétés. Donc les charges ont augmenté en moyenne de 3,1% en 2018 par rapport à 2017. C'est un chiffre qui cache des écarts importants puisque Paris enregistre la hausse la plus faible, 0,3%, alors que Montpellier décroche un record avec plus 5,7% de hausse de charges de copropriété.
Et les honoraires des syndics augmentent aussi.
Effectivement, ils augmentent. D'après un courtier spécialisé dans les syndics, Cineval, ils nous disent que la rémunération des professionnels, des syndics, a bondi de 7,6% en Île-de-France, 10,2% à Paris. Et écoutez bien, 20% de hausse à Lyon. C'est une hausse significative et ça concerne surtout les petites copropriétés.
Thomas Huriez.
J'avais une question collective. Toutes vos initiatives améliorent un peu la gestion des communs, des copropriétés. Est-ce que vous pensez que grâce à vos outils, demain, on pourra aller plus loin dans la mutualisation ? Parce que c'est ça, un immeuble, on mutualise les communs. Et il y a plein de choses chez nous qui sont mutualisables. Une visseuse, ça sert quelques heures par an. La machine à laver, finalement, on s'en sert assez peu. Est-ce que vous pensez qu'en numérisant par le digital, on va réussir à être un peu plus intelligent collectivement en mutualisant ces objets qu'on a dans toutes nos maisons ?
Alors, qui veut répondre ?
Je peux prendre la parole là-dessus. Oui. Nous, on le constate sur la plateforme aujourd'hui. Ne serait-ce que pour parler de ma copropriété où on a un Karcher qu'on partage bien volontiers. Mais évidemment, l'enjeu, c'est de parler des problèmes et concrètement des charges derrière. Hein. Donc, on est vraiment sur l'entretien courant. Mais derrière, une fois qu'on a cassé la glace, comme on dit, et la colonne d'ascenseur, c'est aussi que les gens se parlent à un moment donné, on va pouvoir évidemment privilégier d'autres types d'échanges. Et on peut imaginer, en effet, donc sur la plateforme, nous d'ailleurs, on a développé un calendrier partagé qui permet de réserver des ressources. Donc ça peut être des salles communes, nous on travaille avec beaucoup avec les promoteurs aussi, en particulier Kaufmann et Broad qui nous distribuent. Et c'est vrai que ce genre de choses sont absolument possibles et de plus en plus recherchées par les occupants.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous demande aussi, Guillaume ? Est-ce que vous voyez apparaître ça quand
ce qu'on voit en fait, c'est que les syndics professionnels pour se différencier de la concurrence propose
de plus en plus de services.
Et donc ça devient en fait une plateforme de services, de mise en relation entre copropriétaires, justement, tant sur la visseuse ou s'il y a une personne qui peut garder un enfant un soir, etc.
Même chose chez vous, il est copro, Raphaël ?
Oui, absolument. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que en gros, la technologie et le numérique permettent de répandre des modèles qui existent depuis longtemps. Le syndicat coopératif, ça existe depuis 1965. C'était confiné à un certain nombre de personnes jusque-là. Mais avec les outils d'aujourd'hui, on permet de le répandre au plus grand nombre. Et ça, c'est hyper intéressant.
On reste ensemble et on continue à débattre avec vous, bien sûr, sur Europe 1. Il est 13h39.
Europe 1.
On vous attend, 39-21 et Twitter, hashtag Europe 1. Que faut-il améliorer dans l'univers des syndics ? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Allez-y, vous décrochez votre téléphone ou alors vous nous envoyez un petit message. C'est maintenant, à tout de suite. Europe 1.
Le dossier du jour est consacré aux copropriétés, aux syndics. Raphaël Duchemin, un sujet qui vous fait réagir, notamment sur Twitter, hashtag Europe 1. On a Rafa qui nous dit éviter de surfacturer. Les propriétaires qui gèrent sans syndic s'en sortent très bien. Après, c'est vrai qu'il faut du temps. On a également Coquillage. Je ne sais pas si cela est possible, mais éviter les réunions interminables. C'est vrai que ça revient souvent. Et qui ne mène à rien, puisque personne ne tombe jamais d'accord. Et puis Fabienne qui, elle, pousse un petit coup de gueule. Hein. Qu'ils arrêtent de nous arnaquer. On imagine qu'elle s'adresse au syndic privé.
Oui, peut-être. Réunion interminable, je vois que ça fait réagir Elisabeth Assayag. On a des statistiques,
mais non,
peut-être.
C'est pas des statistiques, c'est qu'il y a un arrêté qui date de juin qui autorise les copropriétaires à assister aux assemblées générales, ça va vous plaire, par visio ou audioconférence. C'est un texte qui stipule que c'est possible que vous puissiez assister à cette fameuse assemblée générale à laquelle on assiste rarement, parce que c'est souvent à 17h au milieu de la semaine et tout le monde ne peut pas se déplacer. C'est un décret qui vise donc à faire diminuer ce fameux taux d'absentéisme à ces assemblées, souvent très élevé, et qui bloque très souvent le vote de certaines décisions.
Alors, on va voir ce qu'en disent justement nos invités. Avec nous, Raphaël Di Meglio d'Illicopro, Guillaume Andrieux, fondateur de Duflair.com, et Philippe Joubert, fondateur de Chouette Copro. Ce que vient de dire Elisabeth, ça vous fait réagir cette loi, ce décret, il est nouveau, mais est-ce qu'on en a connaissance finalement? Est-ce que vous le connaissiez? Je suppose que oui.
Oui, bien sûr. Alors, pour moi, c'est une très bonne chose. Ça va permettre d'augmenter la présence en Assemblée Générale. Mais il y a aussi le revers de la médaille qui fait que vous allez avoir celui qui n'arrive pas à se connecter, qui va se déconnecter durant l'Assemblée Générale. On parlait de réunion interminable, je ne suis pas sûr que ça réduise le temps de la réunion. Puis vous avez aussi celui qui va avoir les enfants qui passent à côté ou qui fait autre chose. Donc c'est bien, mais à prendre avec des pincettes.
Philippe Joubert.
Oui, moi je pense que c'est une vraie avancée, mais qui questionne énormément sur la faisabilité technique. Parce que imaginez un Skype, excusez-moi, je cite la marque, de 80 personnes avec 5 personnes en physique. Est-ce que vraiment c'est d'abord, est-ce que c'est souhaitable et est-ce que c'est faisable juridiquement? Puisque l'Assemblée Générale, il y a des fondements juridiques aussi. Et donc, moi, je pense que c'est une avancée. Après, la réalité de la chose, j'en sais rien.
Même question, Raphaël.
Oui. Je pense que c'est le sens de l'histoire. En effet, sur des grosses copropriétés, ça va être assez compliqué. Après, sur des petites copropriétés où les gens n'habitent pas forcément sur place, etc., ça va être extrêmement intéressant puisqu'on n'aura plus besoin de se déplacer pour l'Assemblée Générale ou donner un pouvoir. On pourra y assister directement par visio.
Alors, nous sommes en ligne avec Bernard, qui est dans le 92 et qui a composé le 39-21. Bonjour Bernard.
Bonjour Raphaël, bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes, vous, au conseil syndical de votre résidence, je crois?
Oui, au conseil syndical de ma résidence. 59 logements, une petite barre HLM qui a été construite en 56 et dans laquelle j'habite depuis 57.
Et alors, ça se passe comment?
Alors, c'est très simple. Tant que ça a été en location avec un office de HLM, aucun problème. Bien connu, d'ailleurs, l'office. Mm-hmm. Et d'autre part, dès que ça a été vendu, il y a maintenant 12 ans, en tranche, si j'ose dire, en copropriété, là, on a été livré, si j'ose dire, aux griffes des syndics.
Alors, vous dites des syndics parce que je suppose que depuis, vous en avez vu passer plusieurs?
On en a vu passer, pour le moment, 3. Plus une période de syndic coopératif.
Et ça ne s'est pas mieux passé pendant cette période-là?
Non, parce que le principe du syndic coopératif, si vous voulez, est excellent. Simplement, il nécessite effectivement un gros investissement en temps. Ça risque de vous griller avec tous les gens de la résidence si vous ne prenez pas toujours les décisions qu'ils ont envie. Et d'autre part, il faut vraiment des gens bénévoles parce que le syndic coopératif n'est pas rémunéré.
Alors, vous dites, le problème, c'est que les lois qui encadrent les syndics, alors je vous cite, sont des fumisteries, parce qu'il n'y a jamais de sanctions concrètes.
Alors, c'est très simple. Vous avez effectivement une loi de 65, avec décret en 67, c'est-à-dire 2 ans après le décret. Et là, si vous voulez, il y a un tas de choses qui sont interdites ou autorisées. Mais dès que le syndic, le nôtre, est-ce que je peux citer son nom? C'est un syndic très, très connu.
Bah oui, allez-y. Et puis peut-être qu'il aura peut-être envie de nous répondre et on donnera sa réponse, évidemment.
Alors, notre syndic actuel, c'est Foncia Foubert, à Colombes.
Mais alors, vous en aviez eu d'autres avant, hein, si j'ai bien compris. Oui. Trois autres, ça n'avait pas mieux marché, manifestement.
Absolument, absolument. Alors, ce que je tiens à dire, simplement, les syndics que nous avons eus, je ne parle pas du syndic coopératif, hein, les syndics que nous avons eus, qui étaient Atrium à Levallois, et aussi, avant, nous en avons eu un autre, qui était Saucer-Marveille, qui a été plutôt meilleur, il faut le dire.
C'est quoi le problème ? Qu'est-ce qui ne marche pas ?
C'est très simple. Vous payez 12 000 euros TTC par an, 12 000 euros TTC, et nous payons la TVA, hein, on est bien d'accord. Et vous avez droit à quasiment rien, c'est-à-dire que vous appelez pour des choses sérieuses, hein. Et vous n'avez jamais de réponse, vous avez un répondeur, ça ne répond jamais.
Alors, je voudrais qu'on fasse réagir nos invités, parce que manifestement, ça n'a pas l'air de vous étonner beaucoup, ce que décrit effectivement notre interlocuteur, hein, Bernard, qui est dans le 92. Raphaël, ce sont des choses que vous entendez souvent ?
Ouais, bah c'est un cas typique, j'ai envie de dire, d'un copropriétaire frustré par son syndic. Ce que j'aimerais dire sur le syndic coopératif, c'est qu'en effet, si on n'a pas d'outils, ça prend du temps. Mmh. Et c'est complexe, c'est chronophage, etc. Alors, nous, notre rôle chez Helicopro, c'est justement de faire en sorte que ça ne prenne pas de temps, que ce soit facile à faire.
Oui, parce qu'ils ont essayé et effectivement, ça ne marchait pas.
Exactement. Et en fait, nous, avec les bons outils, avec le bon support, avec les bons conseils, avec des gens réactifs au téléphone, on fait en sorte que ce soit possible et que ça ne prenne pas de temps. Et c'est exactement ça, c'est que au lieu de changer de syndic tous les ans, il faut changer de modèle. Et le modèle des syndics est un peu à bout. Et nous, on permet aux gens de passer en syndicat coopératif pour que ça se passe mieux.
Alors, je voudrais qu'on accueille Françoise qui est à Besançon. Je suis ravie qu'elle nous appelle. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous dites, cette émission va à sens unique. Ben non, mais je suis ravie que vous appeliez.
Ben, j'ai l'impression que je suis la seule à bien vouloir
attendez,
m'exprimer sur le...
Vous savez, moi, le 39-21,
la qualité de service.
Ça fait deux heures que je lance le 39-21, donc...
Ben, ça y est, je me suis dit...
Vous avez bien fait, on vous écoute, Françoise.
Bon, simplement parce que les syndics professionnels, je pense qu'ils font un métier très difficile. Ils sont au front par rapport à toutes les entreprises qui doivent gérer après, en fonction des demandes des syndicats des copropriétaires et des différents travaux dans les copropriétés. Voilà. Donc, d'une part, sur la réactivité, il y a la réactivité du syndic, mais il y a aussi toute la réactivité ou la non-réactivité des intervenants. Après le syndic, toutes les entreprises, ascensoristes, artisans, etc. Vous avez également parlé des charges qui avaient fortement augmenté, mais dans les charges, il n'y a pas que le syndic, il y a l'électricité.
Ah non, mais on a bien dit que c'était les charges. Charges de copropriété.
Voilà.
Charges de copropriété.
Voilà.
Non, vous savez, on ne mélange pas, hein. on a bien séparé, vous avez noté. Hein.
D'accord. Après, sur les syndics en ligne, j'ai quelques réserves à faire pour les grosses copropriétés.
C'est-à-dire ?
Il me semble que sur les petites copropriétés, on va dire jusqu'à 10 lots, 15 lots peut-être, on peut faire ça. Le volontariat, le syndic non professionnel, aidé par un syndic en ligne, enfin un gestionnaire en ligne, pourquoi pas. Mais après, quand on arrive à 50, 60 appartements, ça me semble beaucoup plus difficile parce que outre les problèmes techniques, j'ai le sentiment que les syndics sont là aussi pour résoudre quelques problèmes sociaux et de voisinage.
C'est l'idée, on est bien d'accord. Je crois que Raphaël voudrait vous répondre justement sur l'aspect en ligne.
Oui, bonjour madame. En fait, nous, chez Helicopro, on a des copropriétés qui vont de 2 à 250 appartements. Et des grosses copropriétés en Ile-de-France, mais aussi dans d'autres villes françaises, donc à Nantes, à Lyon, etc. Et donc l'idée, c'est vraiment que avec notre plateforme et notre support, c'est une formule qui correspond à tous les types de copropriétés et pas uniquement aux petites copropriétés. Et quand il y a un conseil syndical actif, et ben ça fonctionne extrêmement bien.
Merci beaucoup, Françoise, pour votre appel. Merci à tous les trois d'être venus.
Merci beaucoup.
Vous voulez débattre, il faut nous appeler un tout petit peu plus tôt parce que c'est vrai qu'après l'heure tourne et qu'on n'a plus le temps, c'est dommage. Mais on entend tout et on se dit tout ici sur Europe 1. La parole est libre. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Il est 13h50.
Europe 1.
Et on reste ensemble, vous faites peut-être du camping. D'ici quelques minutes, vous allez découvrir Cabanon, c'est l'entreprise qui va bien.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est l'heure, Raphaël Duchemin, de notre dernier rendez-vous. On parle de l'entreprise qui va bien.
Oh, voilà, qui va sûrement réveiller vos souvenirs de camping ou de scout, peut-être, parce que c'est Cabanon, l'entreprise qui va bien aujourd'hui. Bonjour Pierre Cérulus.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le PDG de cette belle maison qui nous vient tout droit du Nord. Je crois que c'est en 59 que l'aventure a commencé. Le fondateur Antoine Lemaire et son associé se sont mis à fabriquer des tentes pour les familles. Mais alors, comment leur est venue l'idée et pourquoi des grandes tentes ?
Alors, je ne suis pas sûr qu'ils aient eu l'idée des grandes tentes, eux. Je pense qu'ils étaient dans les tentes plutôt familiales et les scouts. Et puis, ils ont rapidement fait des caravanes pliantes. Et les grandes tentes, c'est venu après. C'est venu avec l'avènement du camping, ce qu'on appelle aujourd'hui glamping. Mais le retour des tentes de location, donc des campings comme la société Utopia, qui a été propriétaire de l'entreprise et qui fait ce genre de tente et qui met ça à disposition de ses clients.
À l'époque, quand ils commencent, ils utilisent des toiles qui viennent notamment du nord de la France, pas seulement. Il y a des toiles qui viennent d'Allemagne, qui viennent des Pays-Bas également. C'était important de garder un ancrage.
Alors, je ne sais pas très bien, parce qu'en fait, quand ils ont commencé, moi, je n'étais pas encore né, donc je n'ai pas eu l'occasion de les connaître. Mais aujourd'hui, c'est certainement dans l'ADN de l'entreprise de faire travailler les gens à côté de nous. Puisque en fait on veut vendre des vacances qui sont écologiques, on se doit aussi nous d'être aussi éco-responsables que possible.
Voilà. Oui, c'est pour ça que vous utilisez justement, vous évitez tout ce qui est synthétique, vous allez chercher du coton par exemple, des matières qui respirent et qui sont effectivement plus vertes.
Oui, enfin, on essaye de travailler beaucoup sur le confort des tentes et sur leur durabilité. Donc aujourd'hui, par exemple, on a des tentes, on a participé à un camping vintage et on a découvert qu'il y a des gens qui utilisaient encore des tentes de chez nous qui ont plus de 50 ans. Ce qui était pour nous, ça nous a fait chaud au cœur.
Et donc, oui, parce que ça veut dire que ça résiste.
Ça résiste, oui, à condition de ne pas les stocker mouillés. Donc tous les utilisateurs de tentes qui nous écoutent, si vous faites ça, c'est bon pour nous, mais c'est pas bon pour vos tentes.
Dites-moi, vous réalisez tout, vous confectionnez tout sur des machines à coudre industrielles aujourd'hui ? C'est comme ça que ça marche ?
Oui, enfin la couture aujourd'hui, elle est très très peu automatisée. Oui. Il y a quelques exemples de robots.
Ça veut dire que vous avez encore des couturières ?
Oui, oui. Et on investit, les couturières, c'est un peu la perle qu'il y a dans l'huître Cabanon, parce que, un, c'est difficile d'en trouver, deux, ça prend du temps de les former, et aujourd'hui, on a un programme de formation et de recrutement, et il faut compter à peu près 2 ans pour former une couturière, quelqu'un qui sait déjà coudre à la confection de nos produits.
Dites-moi, Pierre Cérulus, vous arrivez comment dans l'aventure ? Parce qu'au départ, vous êtes quand même dans la pétrochimie.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui vous donne envie d'acheter Cabanon et pas une autre ?
Alors, il y avait deux éléments importants. C'est que j'avais envie de reprendre une entreprise. Et je suis convaincu qu'il reste de la place pour de l'activité manufacturière en France et en Europe. Et donc, Cabanon représentait ça avec un savoir-faire qui était à transmettre et à développer. Et je cherchais une plateforme à l'export parce que j'avais fait 25 ans d'international. Et donc, Cabanon représentait ça. Et puis, je pense que la séduction, c'est venu des gens que j'ai rencontrés, où la chimie s'est faite assez rapidement.
Que dit notre coach de l'aventure Cabanon ?
Bon, moi, une boîte qui dure est dans le textile, forcément.
Ça vous plaît, hein, Thomas ?
Ça me plaît beaucoup. On a les mêmes enjeux. Nous, dans le jean, on galère pour trouver des couturières. Alors, on a créé l'école du jean. Peut-être demain, vous ferez l'école de la tente, je ne sais pas.
C'est un plan qu'on a.
Avec plaisir pour partager, voilà, pour partager les enjeux. Dans l'éco-conception, je voulais savoir si... j'ai vu que vous faisiez des armatures en bois. Vous utilisez le polyester, le coton. Est-ce que demain, c'est envisageable d'aller vers du polyester recyclé, du coton bio ? Est-ce qu'il y a la place dans le marché de la tente pour aller vers ces produits-là ? Et est-ce que vos tissus eux-mêmes sont tissés en France, sont locaux ?
Alors,
oui, du tissé en France, il y en a peu. Donc on travaille, il y a quelques tissus à nous qui sont tissés en France, c'est vrai, mais on travaille avec des fournisseurs qui sont français et européens. Ça veut dire qu'au minimum, ce qu'on appelle l'après du textile, donc c'est-à-dire la couleur et les traitements, sont faits en France ou en Europe. Nous sommes demandeurs de tissage français et même de fibres un peu plus exotiques que le coton. Enfin, pas exotiques dans l'usage, mais plutôt locales dans les plantations. Et donc, on est très ouvert à des choses comme le lin, le chanvre. Mais aujourd'hui, ça reste un peu encore des bêtes de laboratoire. Mais on est demandeurs.
Vous faites aujourd'hui 65% de votre chiffre d'affaires à l'international, c'est-à-dire une marque connue, reconnue à l'étranger, peut-être un peu moins connue ici chez nous. Pourquoi ?
Oui, alors je ne sais pas pourquoi le nom Cabanon est, par exemple, très 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 connu en Angleterre. Il le prononce d'ailleurs Cabanon, ce qui est assez folklorique et chantant. Et donc on a profité de ça pour développer la marque. Et puis on vend beaucoup aux Pays-Bas parce que c'est un pays où 50% des gens campent. Donc c'est pour nous un gros gros marché.
Cabanon, c'est 57 salariés aujourd'hui, dont des couturières. Oui. C'est une entreprise qui est toujours basée dans le Nord. C'est l'entreprise qui va bien. Merci Pierre Cérulus d'être venu nous la présenter aujourd'hui.
Avec grand plaisir.
Merci à Thomas Uriès qui était notre coach. On se voit bientôt, évidemment Thomas. Elisabeth, nous, on se dit à demain pour La France Bouge à partir de midi sur Europe 1.
C'était Raphaël Duchemin. Dans un instant, on de la traconte. Merci d'avoir choisi Europe 1. En ce jeudi après-midi, il est 14h.